VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Ghana, funérailles nationales de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, prix Nobel de la paix 2001, ce jeudi à Accra, où se sont rendus de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier. La cérémonie sobre et religieuse s'est déroulée au Centre international de conférence de la capitale ghanéenne et a marqué la fin de 3 jours de deuil national où simples citoyens et dignitaires ont pu rendre hommage aux disparus et se recueillir devant son cercueil. Parmi les personnalités présentes, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son homologue ivoirien Alassane Ouattara et l'actuel secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Dans son éloge funèbre, Antonio Guterres, un ami personnel de M. Annan, a salué le courage, la dignité et le profond sens moral du disparu. Kofi Annan était les Nations Unies et les Nations Unies c'était lui, a déclaré M. Guterres devant la veuve de l'ancien patron de l'ONU, la diplomate suédoise Nanne Maria Annan. Les funérailles seront suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire de la capitale ghanéenne. Nigeria, l'armée nigériane a annoncé ce jeudi avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays, la dernière en date d'une série d'offensives de l'organisation djihadiste. Des dizaines d'insurgés s'en sont pris mercredi soir à la base de Damasak dans le nord de l'état de Borno et ont essayé de s'en emparer. L'attaque a été repoussée après plusieurs heures de combat et l'intervention de l'aviation, ont indiqué ce matin des sources militaires dans le chef-lieu de l'état de Borno, Maïdougouri. Le porte-parole de l'armée nigériane, le général de brigade Texas Sokou, a fait état d'affrontements acharnés entre soldats et terroristes. Nigeria toujours, le président Muhammadu Buhari, officiellement candidat mercredi à la primaire de son parti, visant à sélectionner le porte-étendard de l'APC au pouvoir à la prochaine présidentielle. Plus de détails avec Morgan Guiriek.
Le chef de l'État, âgé de 75 ans, s'est rendu au siège de son parti, le Congrès des progressistes, à Abuja, pour remettre son formulaire de candidature à la primaire. Il est le seul homme politique de son parti à avoir retiré ce document pour la primaire, prévue à la fin du mois. Il est donc certain de participer à la présidentielle en février prochain. Muhammadu Buhari a été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer Boko Haram et de mener une lutte féroce contre la corruption. Et sur ces deux points, il a déçu beaucoup de Nigérians. Son premier mandat a également été marqué par une maladie qui l'a contraint à passer plus de 6 mois à Londres pour se soigner. De son côté, le PDP, Parti démocratique populaire, principal parti d'opposition, a prolongé la date de clôture des candidatures à la primaire et choisira son candidat le 6 octobre. L'ancien vice-président Atiku Abubakar et le leader du Sénat, Bukola Saraki, sont des adversaires farouches de M. Buhari.
On reste en Afrique de l'Ouest, en Guinée, comme dans la plupart des pays de départ de migration clandestine vers l'Europe, la réinsertion des jeunes rentrés dans leur pays d'origine se fait lentement. Le processus de réinsertion dans la vie active se révèle plutôt compliqué, nous dit le correspondant de VOA Afrique à Conakry, Zakaria Camara, qui est allé à leur rencontre. Voici son reportage.
La Guinée a été citée ces derniers temps parmi les pays de forte dynamique migratoire. Des jeunes candidats au départ ont tous le même rêve, sortir du pays pour trouver le bonheur. Mais après un échec, ces migrants guinéens gardent encore de tristes souvenirs de leur mésaventure. Mariam Condé a connu le désert avant de se retrouver en Libye.
Arrivé à Agadez, on nous embarque dans un petit pick-up de 10 places. Nous étions au nombre de 33 personnes. Et arrivé à un certain niveau, le chauffeur nous dit de descendre dans le véhicule. Et on nous envoie dans une maison de prostitution. Nous, on est resté là-bas à 3 mois. Et ils nous ont obligés d'appeler nos frères ici pour qu'on nous envoie au moins 600 000 CFA. Alors que le pasteur ne nous a pas expliqué ça. Donc on a eu des maltraitances, on nous frappe à chaque fois, on nous battait. Je suis obligé de faire tous les travaux forcés.
À chacun son histoire, celle de Mariam a commencé par la vente d'un véhicule qui appartenait à son oncle. Elle voulait devenir journaliste, alors que Fodé Mohamed, lui, a utilisé l'argent de son activité de vente de crédit téléphonique.
L'arabe a pris le moteur, lui nous a avancé jusqu'à un certain niveau. Il nous a dit que là-bas maintenant, que les secouristes allaient venir pour nous secourir. Le moteur qui se trouvait sur le Jeugek Il a enlevé ça, il a mis sur l'air lens. Il nous a laissé là-bas. On est resté là-bas jusqu'à le lendemain 16h. Les secouristes ne sont pas venus. Maintenant, la mer nous fait revenir en arrière avec des pêcheurs égyptiens qui étaient à côté de nous. C'est qui nous ont secourus pour nous faire retourner en Libye.
Contrairement aux deux premiers, Kourma Kanti, lui, avait choisi le Maroc.
Bon, quand je suis rentré au Maroc, je ne connaissais personne. J'ai appelé la famille, je leur ai dit que le type qui m'a fait voyager, son numéro ne passe pas. La famille aussi a tenté son numéro, ça ne passait pas. Bon, je suis resté là-bas 2 jours sur la route comme ça. Directement, ma grand-sœur a appelé l'intéressé. L'intéressé m'a hébergé durant une semaine. Quand j'étais là-bas, je souffrais, je ne gagnais pas du boulot. Ce n'était pas facile, la vie du Maroc.
Après 6 mois au royaume chérifien, il peine à trouver un emploi. Depuis 2017, l'Organisation internationale pour les migrations assiste au retour volontaire de plus de 900 jeunes Guinéens. Certains réussissent à lancer des projets de réinsertion économique. D'autres, comme Kourma Kanti, doivent encore attendre.
Au moment qu'on était là-bas, on nous avait dit quand vous rentrez, on allait vous donner ici 1 500 euros chacun. Quand nous sommes venus, ils nous ont dit, bon, c'est pas l'argent cash qu'on va vous donner, on va vous faire monter, on va vous donner d'abord le projet de 45 jours. Après ce projet-là, vous allez se regrouper en 15 personnes, nous soumettre ici vos projets. Mais on a tout fait, on a fait ces projets-là, on les a soumis, les projets, mais jusqu'à présent, ça ne va pas.
L'Organisation internationale des migrations, l'UNICEF et le ministère guinéen de l'Action sociale viennent de signer un protocole d'entente qui doit permettre la protection des droits des enfants et adolescents migrants en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, une rencontre lundi et mardi à Luanda entre les ministres des Affaires étrangères de la Belgique et de l'Angola a suscité la colère de Kinshasa qui a répété aujourd'hui son refus de toute ingérence étrangère dans la préparation des élections prévues le 23 décembre 2018 en RDC. Lors de cette réunion à Luanda, le ministre angolais Manuel Domingo Augusto et son homologue belge Didier Reynders ont réitéré l'importance d'un processus véritablement inclusif qui puisse aboutir à des élections crédibles, libres et transparentes le 23 décembre en RDC. La réaction négative de Kinshasa intervient aussi après la rencontre mercredi à Bruxelles de plusieurs dirigeants de l'opposition congolaise qui ont appelé le régime du président Joseph Kabila à respecter la loi électorale sous peine d'entraîner la RDC dans le chaos. Plus de détails avec Eddy Issango.
Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, candidat validé par la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mozito, invalidé, ainsi que Moïse Katumbi, qui n'a pas pu déposer sa candidature, ont signé la déclaration conjointe. Ils ont prévenu de tenir la CENI et les gouvernements responsables du chaos et des conséquences d'une parodie d'élection. Ils exigent que les candidats récalés soient réadmis à participer à la présidentielle et à la CENI d'abandonner la machine à voter. Les signataires exigent le nettoyage du fichier des 16% d'électeurs sans empreinte digitale et la mise en œuvre des mesures de décrispation avec la libération des prisonniers politique et l'accès aux médias publics. Pour ses opposants, les élections doivent se tenir avec une participation de la MONUSCO pour la logistique et une observation de la communauté internationale. Mais le gouvernement a déjà rejeté toute ingérence étrangère dans la préparation et la tenue de ces scrutins le 23 décembre.
Conflit au Soudan du Sud maintenant. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé un nouvel accord de paix. C'était au cours d'un sommet régional à Addis Abeba en Éthiopie hier. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Après avoir signé le document, les deux hommes se sont ensuite serré la main devant les chefs d'État de l'Ouganda et du Soudan en présence du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Aujourd'hui, nous espérons ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle opportunité de construire une paix durable au Soudan du Sud, a déclaré Festus Mogae, ancien président du Botswana, chargé du suivi du cessez-le-feu. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, David Schirrer, a fait part de son espoir de voir la fin du conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de personnes à fuir leur foyer. Un précédent accord a été signé en 2015, mais n'a jamais été respecté. Pour David Schirrer, cette toute dernière signature est un premier pas sur le chemin de la paix. Il estime qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.